Bonsoir. Le chef de l'État, Joseph Kabila, lors de son dernier discours devant le Congrès, avait annoncé des mesures importantes en réponse aux recommandations des concertations nationales. Il s'agit entre autres de la formation imminente d'un gouvernement de cohésion nationale, de la mesure portant grâce présidentielle et de la fin de la guerre. Trois semaines après le discours du chef de l'État, où en est-on à ce jour avec la mise en application de ces mesures? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 13 novembre 2013. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Didier Molichaud, député national et secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Monsieur Molichaud, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Zachary Kenda, cadre du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Il est aussi avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Zachary, bonsoir.
Merci madame.
Et Joseph Kongolo, analyste politique. Bonsoir Joseph.
Bonsoir madame.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Tandema de Ouattara en province orientale. Je pense que parmi les grandes décisions du chef de l'État, celle d'organiser un gouvernement d'union de cohésion nationale tarde à se concrétiser. Néanmoins, il faut souligner la volonté manifeste du président à éradiquer les groupes armés dans l'est de notre pays. La fuite du M23 en Ouganda en est une illustration. Kaigiso Ntwali Pierrot de Goma au Nord Kivu, jusque-là la mise en application des mesures prises par le chef de l'État est négative parce qu'aucune d'elles n'est en application. La guerre gagnée est un fruit de non-adhésion de la population à la politique du M23, sinon rien n'est encore fait. Merci de nous suivre par ton RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Trois semaines se sont déjà écoulées depuis que le chef de l'État s'est adressé à la nation devant le Parlement réuni en Congrès. Ce jour-là, Joseph Kabila avait annoncé des mesures urgentes qu'il avait prises sur base des recommandations issues des concertations nationales. Où en est-on à ce jour avec l'exécution de ces mesures? Tentative des réponses dans cet élément de Jacques-Yves Molima.
Il s'agissait entre autres de la mise en place du comité national de suivi des recommandations des concertations nationales, de la nomination des représentants du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles et la lutte contre la corruption, ou encore la poursuite dans un délai relativement court du cycle électoral, et surtout mettre fin au cycle de violence dans la partie est du pays et la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale. Selon le porte-parole du gouvernement Lambert Mende, un premier fait est déjà perceptible sur terrain.
La plus grande, la plus importante des mesures qui était la fin de la guerre qu'on nous faisait à l'Est, a été accomplie. Je pense que maintenant, la rébellion du M23 a été vaincue. C'est la première promesse que les concertations ont arrachée du chef de l'État.
Quant à ce qui concerne la mise en place du gouvernement de cohésion nationale, le chef consulte Adi Lambert Mende.
Je pense qu'on ne presse pas un président de la République. Un président responsable consulte les gens. Il va proclamer, il a promis, ça va se faire. Il n'a jamais annoncé un délai, il a dit qu'il va le faire, il va le faire.
Quant aux autres mesures, notamment la poursuite du cycle électoral dans un délai voulu relativement court par le chef de l'État, le porte-parole du gouvernement dit qu'il y a des séances de travaux qui se font entre la CENI et certaines institutions.
Merci Jacques-Yves Molima. Honorable Didier Molichaud, je rappelle que vous êtes député national et secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. On le sait, plusieurs mesures avaient été prises par le chef de l'État après les concertations nationales. Mais pour ce soir, on va se pencher sur trois mesures, à savoir le gouvernement de cohésion, la mise en place imminente du gouvernement de cohésion nationale, la mesure des grâces et ainsi que la fin de la guerre, hein. Comme l'avait dit le chef de l'État, à ce jour, où est-ce qu'on en est avec cette mise en application?
Merci madame pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur ces sujets. Vous venez d'annoncer trois mesures. Bon, alors, la mesure des grâces...
On va commencer
L'ordonnance portant mesures des grâces a été prise par le chef de l'État.
Honorable Molichaud, on va commencer par la mise en place du gouvernement de cohésion nationale et la fin de la guerre. La mesure des grâces, ça sera dans notre deuxième partie.
Ah, vous voulez qu'on commence par la mise en place d'un gouvernement
de cohésion nationale, parce que c'était quand même ce que tout le monde, une grande partie de la population congolaise attendait.
Oui, le président de la République, dans son discours, avait annoncé la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale. Et il a précisé que ces gouvernements comprendraient, outre le gens de la majorité, ceux de l'opposition et de la société civile. Vous comprenez, madame, qu'un gouvernement qui comprend ceux de la majorité, de l'opposition et de la société civile doit, pour sa mise en place, être précédé par de consultations. Et il me semble que c'est le travail qui est en train d'être fait. Il faut pas...
Il faut attendre combien de temps pour que ce gouvernement soit mis en place?
Il n'y a pas de délai à fixer si on veut agir avec responsabilité. Je pense que le gouvernement sera mis en place parce que le président de la République l'a annoncé.
Alors on sait que parmi les objectifs qui étaient assignés à ce gouvernement de cohésion nationale, c'était entre autres mettre fin à cette guerre dans l'Est de la RDC. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus de guerre dans l'Est. Est-ce qu'il est toujours opportun d'avoir ce gouvernement de cohésion nationale?
Les missions assignées à ces gouvernements de cohésion nationale étaient pas seulement de mettre fin à la guerre.
Entre autres, j'ai bien dit entre autres.
Entre autres. Donc ça veut dire que ces gouvernements devaient avoir d'autres missions. Et il me semble que pour ces autres missions, ces gouvernements devraient être mis en place. Mais la guerre, la poursuite de la guerre, le chef de l'État l'avait annoncé. Il avait dit clairement dans son discours que on demandait aux forces négatives ou aux groupes armés de déposer les armes. Et ceux qui ne voulaient pas déposer les armes, l'armée devait s'en occuper. Et c'est ce que l'armée a fait avec les victoires que nous sommes en train de fêter sur les forces négatives ex-M23.
Alors, honorable Monichot, lorsque vous dites qu'il n'y a pas de délai par rapport à la mise en place de ce gouvernement de cohésion nationale, ça veut dire qu'on peut attendre jusqu'à l'année prochaine?
Non, je ne crois pas qu'il faille voir les choses de cette manière-là. Je vous dis que les consultations sont en train de se faire. C'est un gouvernement qui comprendra aussi bien les gens de l'opposition que ceux de la société civile. Il faut consulter. Je pense que les consultations sont en train de se faire et que ce gouvernement sera mis en place des moments à venir.
De 3 semaines, est-ce que c'est pas déjà beaucoup?
Beaucoup par rapport à quoi? Parce que vous savez que la République, c'est un tout. Hein. Vous savez que pour le moment, la grande préoccupation, c'était de mettre fin à cette guerre. Et si on s'occupe de cette question-là, je pense que 3 semaines n'est pas beaucoup. 3 semaines n'est pas beaucoup par rapport à ce qui est en train de se passer. Moi, je crois qu'il faut voir la République dans son ensemble.
Alors, certains observateurs estiment que si ça traîne, c'est parce qu'on voudrait satisfaire tous ceux qui ont pris part aux concertations nationales. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je ne pense pas que ça soit ça la raison.
C'est juste que le chef de l'État est en train encore de consulter
Oui. Les
partis politiques de l'opposition, tout comme de la majorité.
Ou bon, au niveau
et de la société civile. Hein.
Au niveau de la majorité, il ne peut pas consulter parce que c'est lui l'autorité morale de la majorité. La majorité est organisée, au niveau de la majorité, il n'y a pas de problème.
Le problème se pose au niveau de l'opposition et de la société civile.
Parce que c'est un gouvernement de cohésion nationale. Il faudrait que...
On peut dire que les ministres de la majorité, ils sont connus.
Non, je ne peux pas dire que les ministres de la majorité sont connus. Tout ce que je peux dire est que les acteurs de la majorité sont connus et ils sont organisés.
Alors, on va prendre pour vous, honorable Molichot, cette réaction qui nous vient de Bukavu, au Sud-Kivu.
Je suis Sankey Matumaini de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Le grand péché est d'avoir fait trop de promesses, mais de tous les matières sensibles, juste pour satisfaire les conservateurs, qu'attendre le temps d'évaluer les conséquences. Car non seulement le gouvernement n'a plus le cœur à l'ouvrage, car expédie désormais les affaires courantes, mais aussi la cohésion nationale recherchée par les concertations nationales risque de se briser davantage, car tout le monde ne sera pas servi. Je pense que l'urgence maintenant est d'abord la constitution du gouvernement, car il n'est pas bon de traîner un remaniement quand il est déjà prononcé pour éviter le dérapage. Le grand problème des concertations nationales, c'est très des promesses qui constituent le blocage de sa matérialisation maintenant.
Alors, il n'est pas bon de traîner un remaniement quand il est déjà annoncé.
C'est son point de vue, mais nous pensons qu'il ne faut pas agir avec précipitation aussi. Parce que bon, agir avec précipitation, on finit par ne pas atteindre le résultat escompté. Je pense que 3 semaines pour la vie de la République, ce n'est pas un délai très 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 important.
Et vous estimez que ça pourrait avoir lieu quand, honorable Molicho?
Madame, ça va intervenir le moment venu.
Vous n'avez pas une idée sur la date ou le mois?
Ça va intervenir le moment venu.
Alors le président préfère nous laisser dans le suspense, donc on attend.
Non, le problème qui est là, c'est que les institutions de la République sont en place, même si notre auditeur a dit que bon, le ministre n'a plus le cœur à l'ouvrage. Le ministre continue à travailler. Et je pense que le moment venu, le gouvernement sera mis en place.
Alors, un mot par rapport à la fin de la guerre, honorable Molicho?
Oui, c'est une grande joie et une grande fierté pour la République démocratique du Congo, hein, de voir ses forces armées mettre fin à l'aventure de ex-M23. Je pense que tout le peuple congolais s'est réjoui et tout le peuple congolais félicite le président de la République, parce que vous savez que cette fin des guerres est une occasion réellement pour prouver à tous ceux qui ont accusé le président de la République d'être ceci ou d'être cela, prouver que le président de la République s'est engagé à mettre fin à cette guerre. Aujourd'hui, je pense que le peuple congolais a retrouvé sa dignité et il a retrouvé sa fierté. Aujourd'hui, nous pouvons lever le front pour regarder réellement tous ceux qui disaient que notre armée n'était même pas capable de tuer un rat.
Alors, il y a un auditeur qui nous dit, qui n'est pas d'accord avec vous, comme vous dites que cette guerre est finie grâce au gouvernement ou à la volonté du chef de l'État. Pour lui, il pense que la guerre est un fruit de non-adhésion de la population à la politique du M23. C'est grâce à la population qui a refusé les M23 sous le sol congolais que cette guerre a pris fin.
Mais madame, je pense que nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître que notre armée a gagné cette guerre. Parce que les images qu'on a montrées de champs de bataille, des armes qui ont été abandonnées, tout ça, bon, ça c'est pas... Oui, la population a participé, elle a accompagné nos forces armées, mais c'est parce que les forces armées se sont battues. Je pense que la population doit avoir le respect vis-à-vis des forces armées, parce que ces gens ont sacrifié leur vie pour défendre l'intégrité du territoire. Il y a des militaires qui sont morts. C'était pas un jeu de football, hein. C'était vraiment une guerre.
Merci, honorable Didier Molicho, maître Zachary Nkenda. Je rappelle que vous êtes cadre d'élu des PES. Vous êtes aussi avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Comment vous répondez à ces, vous réagissez à la, à ce que cet auditeur de Goma a dit, que la fin de la guerre, c'était grâce à la population et non grâce au gouvernement congolais?
Non, attention, il faudrait dire que la population était un soutien. C'était un soutien pour notre armée, mais c'est que se battait au front, c'était l'armée et non pas le peuple. Le peuple ne peut pas laisser battre au front, mais son apport était considérable. Son apport était d'une moralité grave et qui a soutenu l'armée, qui a donné du zèle à notre armée et qui surtout, qui a coupé de l'herbe sous le pied des traîtres au sein de notre armée. Vous savez qu'il y a eu des traîtres à l'interne comme à l'externe. Vous savez qu'on a même le PPRD.
Et s'il n'y avait pas la pression de la population, cette guerre serait en train de continuer?
Oui, j'ai dit que c'était un apport déterminant, madame. Rappelez-vous que cette population s'est soulevée comme un seul homme lorsqu'il y a eu des rumeurs. Si ces rumeurs, il y en a eu. L'officiel a dit qu'il y a des rumeurs, mais le peuple a dit qu'il avait des preuves lorsqu'on voulait rapatrier encore le général qui est au front ici à Kinshasa, comme c'est de coutume, comme c'est d'habitude. Alors, le peuple a dit niette pour cette fois-ci ou jamais, il n'y aura pas un corps militaire au front qui doit rentrer à Kinshasa. Cet apport était déterminant pour la suite des événements et qui continue aujourd'hui. Je crois que, comme on dit, c'est la victoire d'un peuple, mais c'est la victoire de notre armée, c'est l'armée qui est au faut qui se bat, mais l'armée qui a été soutenue grandement, en grande partie, qualitativement et quantitativement, par notre peuple.
Alors, vous attendez, comme tout le monde, la mise en place du gouvernement de cohésion nationale?
Non, madame, écoutez, vous parlez trop du gouvernement d'union nationale. Je voudrais que l'on puisse avoir des pieds sur terre. Je ne veux pas comprendre comment les gens peuvent nier leurs propres institutions, madame. Même si on dit qu'à l'UDPS, on doute pour douter, on doute le tout. Comment pouvez-vous comprendre, madame, que la CNI d'Ngoï Moulunda, institution de Kabila, qui a proclamé Kabila comme président de la République avec 48%, qui a proclamé Étienne Tshisekedi deuxième avec 38%, qui a proclamé Vital Kamerhe troisième, et que les deux messieurs, Étienne Tshisekedi étant deuxième, dans leur logique, je sais que c'est Étienne qui a gagné les élections, mais dans leur logique, dans leur institution, et qu'ils puissent considérer le poids politique d'Étienne Tshisekedi cumulé à celui de Vital Kamerhe pour parler aujourd'hui du gouvernement de cohésion nationale. Ça dépasse tout sens, mesdames.
C'est l'UDPS a refusé de prendre part aux concertations.
Je ne suis pas en train de parler de l'UDPS, je suis en train de répondre à votre question. Vous avez dit si je crois à ce gouvernement de cohésion nationale.
Oui, parce que vous dites qu'on a ignoré le poids.
C'est utopique, madame. Puisque je dis, comment ils peuvent superbement ignorer leur propre institution, la CENI, qui a proclamé Tshisekedi deuxième, Kamerhe troisième, et les deux combinés, ils ne sont pas présents dans leurs assises, ils ne sont pas présents aux concertations nationales.
C'est parce qu'ils ont refusé de prendre part à ces assises.
Et alors, vous parlez de quelle cohésion nationale, madame? Vous parlez de quelle cohésion? Vous parlez de quelque chose.
Mais à qui la faute du gouvernement qui a organisé ces concertations ou à la faute aux partis qui ont refusé de prendre part à ces assises?
Vous pensez que nous avons refusé pour refuser puisque nous sommes des idiots? Nous n'avons pas refusé pour ça. Vous rappellerez, madame, qu'il y a des accords d'Addis Abeba. Les accords ont dit que ces concertations devaient se tenir sous l'égide de la MONUSCO, de la communauté internationale, par l'office du représentant du secrétaire général des Nations Unies. Alors nous voudrions savoir si M. Obey Minaku et Ken Gwandondo se sont improvisés remplaçants ou envoyés spéciaux du secrétaire général des Nations Unies.
Et donc vous estimez que la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale n'est pas opportun pour le moment?
Non, ne parlez même pas de gouvernement de cohésion nationale, il n'y en a pas. Il n'y a pas un gouvernement de cohésion nationale. C'est un gouvernement tout simplement dans la suite de M. Kabila, comme il en a fait le gouvernement de Matata Mpone, comme il en a fait de Mozito.
Vous ne voulez pas qu'on parle de cohésion nationale parce qu'il n'y a pas l'UDPS et l'UNC.
Qu'est-ce qu'on entend par cohésion nationale? Ça, c'est la question que nous devons se poser. Quand on parle de la cohésion nationale, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a l'unité autour d'une action. C'est-à-dire que nous sommes d'accord, nous regardons tous dans la même direction. Mais ici, nous avons des poids lourds de la scène politique qui ne sont pas avec vous. Vous ne devez pas parler. Je crois que si on aimait encore ce pays, comme l'a dit Étienne Tshisekedi Omulumba, aimer le Congo et les Congolais, je crois à mon sens qu'on aurait pu conjuguer beaucoup d'efforts. Mais je mets un mais, puisqu'il y a encore des envoyés du président Kabila qui continuent à aller sur 10e rue rencontrer Étienne Tshisekedi. C'est peut-être dans ce sens pour arracher ce qu'on appelle les consensus nationaux qui puissent nous amener à la cohésion nationale. Faute de cela, madame, je
mais
dis...
Mais donc pour le moment, il n'y a pas de cohésion nationale.
C'est de l'air, madame. C'est du vent en l'air, c'est de la poupe. Il n'y a rien de la cohésion nationale, je vous assure. Il n'y a rien de la cohésion nationale. Qui fonde la cohésion nationale? Quel est ce poids-là? Moi, je parle de l'institution, la CNI, l'institution de M. Kabila lui-même, qui a a proclamé Tshisekedi deuxième, Kamerhe troisième, sans ces deux messieurs, sans ces challengers, comment pouvez-vous parler de la cohésion nationale? C'est utopique.
Mais comment vous analysez le fait que ce gouvernement tarde à être mis en place?
Oui, c'est dans les habitudes de M. Kabila, vous en doutez, madame. Comment pouvez-vous comprendre? Le discours qui a annoncé les concertations nationales, c'est un discours prononcé en décembre. Nous en sommes d'accord tous. C'est vrai, non? L'honorable ne va pas m'opposer. Il ne va pas refuser. Ce discours a été prononcé au mois de décembre. Mais il a fallu combien de temps pour avoir ces concertations? Et quand même ces concertations seraient terminées, quand il a reçu ces concertations, il a fallu combien de semaines pour qu'il rentre pour annoncer la fin de ces concertations? Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'aller entendre la publication du gouvernement. Ça traîne. Il y a des embûches. Il y a des croquages, puisque il n'y a pas un gouvernement de ce monsieur Kabila s'est rendu effectivement compte qu'il ne c'est pas possible d'atteindre un gouvernement de cohésion nationale puisqu'il y a deux poids lourds des challengers des scènes politiques qui manquent à cette action. Il faudrait peut-être continuer il a envoyé des envoyés, vous êtes journaliste, vous connaissez qu'il a envoyé des gens sur 10e rue, peut-être que dans ce sens, peut-être que c'est dans ce sens qu'ils sont en train de travailler pour arriver à ces résultats-là, mais au jour d'aujourd'hui je doute fort que ces gouvernements qui viennent puissent être le gouvernement de la cohésion nationale et que puissent être le gouvernement qui puisse satisfaire faire tous les peuples congolais. D'abord, il faut circuler les micros, voir les Congolais s'ils sont de cœur avec ces gouvernements, s'ils sont d'accord avec les concertations nationales.
Merci, maître Zachary Nkinda. Joseph Kongolo, vous êtes dans la liste politique. Comment vous expliquez le fait que ce gouvernement se fait toujours attendre la semaine après?
Bien, merci beaucoup pour la question, madame. Je voudrais saluer les co-débatteurs, mes aînés qui sont ici. Je voudrais dire que, à partir déjà des interventions de l'honorable Moulichot et de maître Kenda, vous sentez la différence qu'il y a dans les opinions. Je crois que c'est ce qui explique, quelque part, le retard, n'est-ce pas, de la sortie de ce gouvernement. Il y a, à partir de la fin des concertations, jusqu'aujourd'hui, il y a plein d'événements politiques qui se sont produits, lesquels événements doivent modifier ou des stratégies, doivent modifier des orientations, n'est-ce pas? Et je crois que ce sont autant d'éléments qui modifient tant soit peu le rapport de force sur le terrain politique à l'interne, à la suite de la fin de la guerre, par exemple, n'est-ce pas? À la suite de la fin des concertations de Kampala, il y a un tas d'éléments, n'est-ce pas, nouveaux, qui sont venus s'ajouter et qui peuvent expliquer, je crois, le retard de la sortie de ce gouvernement. Dans l'entretemps, nous sommes à la fin de l'année, il y a une action politique qui a été amorcée par le gouvernement actuel. Si on va vers la fin de l'année, vers la fin du mois de novembre, et que ce gouvernement ne sort pas, je crois qu'il serait de bonne loi. Ça, c'est moi qui le dis. Peut-être d'attendre à la fin de l'année, enfin le début de l'année prochaine pour sortir le gouvernement, question de ne pas casser sur la préparation, n'est-ce pas, du gouvernement en cours, en fonction, n'est-ce pas, de la fin de l'année. Mais ce qui est vrai, c'est que il y a une suite d'événements nouveaux, n'est-ce pas, auxquels on ne s'est pas entendu, qui font que, en tout cas, le gouvernement traîne un peu à sortir. Ça, c'est de mon propre point de vue.
C'est ce qui... Ceux qui pensent que ça traîne, est-ce qu'ils ont, ils ont tort ou ils ont raison?
Ils n'ont pas tort, ils n'ont pas tort. La politique est dynamique. Tant qu'il y a des éléments nouveaux qui s'ajoutent, n'est-ce pas, à vos stratégies initiales, forcément, vous avez le droit, si encore le gouvernement n'est pas encore sorti, de considérer de nouveaux éléments. Voyez-vous? Parce qu'en fait, nous sommes dans une logique simple. C'est que le gouvernement, d'abord, ce n'est pas la cohésion nationale, mais il a pour mission la cohésion nationale. Je crois que là, il faut qu'on se mette d'accord. C'est un gouvernement de cohésion nationale, ça veut dire un gouvernement qui a pour mission la cohésion nationale. Et la cohésion nationale, ce n'est pas un gouvernement. Voyez-vous? C'est pas un gouvernement. Je crois qu'il faut construire des politiques, n'est-ce pas, qui mettent le peuple au centre, qui diminuent les frustrations nombreuses, n'est-ce pas, au sein du peuple, et les fractures différentes, n'est-ce pas, qui sont au milieu du peuple. En ce moment-là, on va atteindre cette cohésion nationale. Donc c'est le gouvernement qui vient avec mission, entre autres, la cohésion nationale.
Et donc on ne peut pas parler de gouvernement de cohésion nationale.
Non, c'est un objectif
qu'on donne. Comme l'a dit maître Zachary.
On peut le qualifier de cohésion nationale, mais ce n'est pas une cohésion nationale retrouvée. C'est une cohésion nationale à reconstruire. Je ne sais pas si je me suis fait entendre. C'est une des missions de ce gouvernement. Donc, aura pour mission de construire des politiques qui amènent, n'est-ce pas, à qu'est-ce que je veux dire, qui amènent à raccommoder, n'est-ce pas, la cohésion nationale qui a été fracturée à partir il y a des élections de 2011. Il faut le dire. Je crois que c'est
connu. Est-ce que ce n'est pas une des raisons qui fait que ça traîne?
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un tas d'éléments qu'on a voulu, n'est-ce pas, verser dans les concertations, n'est-ce pas, pour effacer une partie des raisons, n'est-ce pas, de cette frustration. Malheureusement, on est entré dans la concertation, on a résolu certains problèmes, il y a d'autres qui sont restés, et je crois que nous sommes à la prochaine étape, à l'étape suivante. Je crois qu'il y a une délégation qui est allée sur voir M. Tshisekedi, et nous ne savons pas quel était le contenu du message, quelle est la suite et tout ça. Nous croyons savoir tout simplement qu'il y a bien d'éléments nouveaux qui se sont ajoutés et qui expliquent. Ça, c'est une façon de voir qui explique le retard, n'est-ce pas, de la sortie de ce gouvernement. Parce qu'en fait, le président de la République ne peut plus encore aujourd'hui faire des histoires à la hâte. Nous savons qu'il y a eu des ministres fictifs qui ont été nommés, n'est-ce pas? Il y a eu des ministres fictifs qui ont été nommés. On ne peut plus encore venir à ce genre de choses. Je crois qu'aujourd'hui, le président de la République doit prendre du temps nécessaire pour mettre sur pied un gouvernement qui réponde aux exigences, aux contingences politiques actuelles.
Alors, on va prendre pour vous, Joseph Kongolo, cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Je dis Katongo, depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Katanga. Maintenant que la guerre est terminée, qui était la motivation primordiale des concertations nationales. À quoi bon avoir un gouvernement de trop de cohésion nationale qui viendra gonfler le budget de fonctionnement de l'État au détriment de celui d'investissement et les moyens par lesquels l'État peut agir pour booster le développement? Pour avoir la cohésion nationale, l'État doit redistribuer aux fonctionnaires publics les revenus qui étaient consacrés à la guerre, car cette dernière est une hémorragie financière et un engin de destruction du tissu social.
Joseph Kongolo, qu'est-ce que vous en pensez? Cet auditeur, il trouve qu'il n'est pas opportun d'avoir ce gouvernement dit de cohésion nationale. Hein?
Ne faisons pas l'erreur de croire que la guerre est terminée. D'abord, c'est une fausse assertion. Je crois que nous n'avons pas droit aujourd'hui de dire que la guerre est terminée. C'est une bataille qu'on a vaincue. Une bataille qu'on a gagnée. Il y a encore un travail en profondeur qui doit être fait et sur le terrain et dans les politiques, sur le plan diplomatique, parce qu'il y a un adage qui dit que la ruse du renard est plus dangereuse que la violence du loup. Nous l'avons emportée par la violence. Je crois qu'il y a un autre travail qui doit être fait pour mettre définitivement fin à la guerre. La guerre n'est pas terminée, c'est une bataille qu'on a gagnée. Je voudrais que le Congolais, quand il fête, n'est-ce pas, quand il s'amuse, qu'il se mette en tête qu'entre États, entre les individus, la guerre, ce n'est pas une exception. La guerre, c'est ça la règle. La paix, c'est ça l'exception. Je crois qu'entre les États, c'est comme ça. La guerre, c'est une exception. Alors, qu'est-ce que je dis là? La paix, c'est une exception. C'est la guerre qui est la règle. Donc, on n'a pas le droit aujourd'hui de dormir sous nos lauriers, croire que la guerre est terminée. La guerre est là. Elle est à nos portes. Je crois que ceux qui nous font la guerre n'ont pas des armées non plus. Ils n'ont pas des armées. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sur le plan pratique, il y a le ratissage à faire, n'est-ce pas? Il y a de groupuscules qui existent à travers la République, au Katangayana, dans toute la bande du Nord, il y a des Maïmaï. Tout ça, ça fait partie de la guerre. En plus de ça, il y a d'autres guerres qui ne sont pas conventionnelles, madame. Vous avez les Kuluna, que les concertateurs ont rangés dans le rang, n'est-ce pas, de groupes armés, n'est-ce pas? Au-delà de ça, il y a d'autres mouvements de guerre. Les sans-emploi, les sans-salaires, les sans-droits et tout ce monde-là, ce sont des armées, n'est-ce pas, qui sont là. Donc,
est-il opportun aujourd'hui de voir ce gouvernement, Joseph Kongolo, brièvement?
Oui, c'est-à-dire que, à mon avis, tout en considérant aussi le point de vue de Maître tout à l'heure, je crois que je l'ai dit plus d'une fois ici, que M. Tshisekedi, M. Kamere, M. Kabila ne sont pas des individus, ce sont des opinions, ce sont des personnalités, ce sont des opinions. Ils représentent des opinions et mis ensemble, vous avez 90% de la population, ou encore des électeurs. Nous l'avions déjà dit. Je crois qu'aujourd'hui, la cohésion nationale doit impliquer forcément l'ensemble des forces politiques en présence. Mais est-ce que c'est une nécessité? Je crois que dans une démocratie, nous avons raison, nous avons besoin aujourd'hui de survivre, de faire vivre la démocratie, de ne pas tomber dans l'unanimisme. Et je crois franchement que une cohésion nationale peut être un objectif donné, n'est-ce pas, à un gouvernement.
Merci,
même si
Joseph Kongolo.
Les autres ne sont pas là. Mais l'objectif, c'est de trouver un consensus. Parce qu'il y a une différence entre une cohésion nationale et un consensus.
Merci, Joseph Kongolo. Monsieur Molicho, réaction?
Oui, madame. Moi, je commencerai d'abord par dire que, oui, il y a l'ambassadeur Mugalu qui est allé voir monsieur Tshisekedi. Bon, il faut pas commencer à construire des idées là-dessus. L'ambassadeur Mugalu l'a dit lui-même qu'il est allé voir M. Tshisekedi de sa propre initiative. Il n'a été mandaté par personne. Donc, il faut que les choses soient claires. Et de deux...
On ne peut pas parler de gouvernement de cohésion nationale lorsque les poids lourds de l'opposition n'ont pas concertations.
Je voudrais que les choses soient claires, madame. Est-ce que vous pensez que dans une démocratie, on peut avoir un gouvernement de cohésion nationale? C'est peut-être pas à moi à vous poser des questions. Nous sommes dans un système démocratique. Nous avons besoin d'une opposition. Un gouvernement de cohésion nationale ne veut pas dire un gouvernement qui regroupe tous les partis politiques du pays. Un gouvernement de cohésion nationale, tel que le président de la République l'a lui-même défini, c'est un gouvernement d'ouverture. Le président de la République s'inscrivait dans sa logique d'ouverture, qu'il avait déjà annoncée lors de son investiture. Donc il faut que les gens comprennent que si tel parti politique ou tel autre parti politique ne fait pas partie du gouvernement de cohésion nationale, ce n'est pas un gouvernement de cohésion nationale, c'est une erreur. Il faut pas que les gens retiennent ça. Nous sommes dans une démocratie où nous avons besoin d'une opposition. y ait un gouvernement de cohésion nationale tel que le président de la République l'a défini. C'est un gouvernement d'ouverture. Et l'ouverture ne veut pas dire englober toute l'opposition.
Une partie de l'opposition.
Bah, celle qui accepte de venir.
Qui sera majorité.
Elle ne sera pas majorité, elle sera toujours opposition. La majorité ne sera pas réqualifiée, je crois que j'avais déjà l'occasion de le dire une fois. Et ici, je pense que le temps est en train de donner raison au président de la République. Vous savez, madame, que depuis que le M23 a commencé à créer des problèmes à l'est de la République, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le rôle du président de la République. Et au niveau de la majorité, le président de la République l'a toujours répété, notre armée doit monter en puissance. Le moment venu quand notre armée va monter en puissance, elle va vaincre les ennemis. Et c'est ce qui est en train de se faire.
Est-ce que la guerre est finie? Parce qu'on a suivi, hein,
la guerre
de Joseph Kongolo qui dit que la guerre n'est pas terminée, c'est juste une bataille qu'on a gagnée.
Oui, on a gagné une bataille, mais une bataille importante. On a gagné une bataille importante. Je ne dis pas que la guerre est finie. Vous savez, un pays comme le Congo, c'est pas n'importe quel pays. Un pays comme le Congo doit toujours s'attendre à ce qu'il soit attaqué. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui nous mettre à fêter pour nous dire oui, on a vaincu le M23, maintenant c'est la fête. Non, non, non. Nous avons un autre moral maintenant, c'est le moral de vainqueur. Nous avions une armée qui, au premier coup de fusil, elle détalait, elle pillait. Vous savez, notre armée, les dernières batailles qu'elles ont gagnées, vous avez vous-même rendu des reportages sur ce qui s'est passé sur le champ de combat. Il n'y a pas eu de pillage après. C'est une armée disciplinée qui a fait une guerre et qui a vaincu l'ennemi et qui n'a pas eu de pillage. C'est déjà un autre moral. Et ça, c'est ça que nous devons continuer à renforcer. Et cette armée nous donne un exemple.
Merci, honorable Didier Moulicho. Toujours en exécution des recommandations des concertations nationales, le chef de l'État a signé une ordonnance portant mesures collectives de grâce en faveur des prisonniers. Cependant, l'exécution de cette mesure tarde également à venir, ce que dénonce le collectif des avocats de ces détenus. Mimi Ngumba nous en dit plus.
L'ordonnance portant mesures de grâce au profit de prisonniers avait été signée le 23 octobre dernier. Le chef de l'État l'a dit le même jour dans son discours devant le Parlement réuni en Congrès. L'ordonnance marquant la réconciliation et la cohésion nationale réduit sensiblement la peine des prisonniers congolais. Elle accorde par exemple la commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité en celle de 20 ans de servitude. La peine de servitude pénale inférieure ou égale à 20 ans est réduite de 5 ans. Le même document chargeait le ministre de la Justice de l'exécution de cette décision. Mais pourquoi celle-ci tarde à s'appliquer? Pas de réponse à cette question pour le moment, car nos efforts en vue de joindre le ministre de la Justice sont restés vains. Cependant, apprenant de sources judiciaires, le ministre devait d'abord lister toutes les personnes détenues dans les prisons congolaises. Ensuite, voir lesquelles répondent aux critères de cette mesure de grâce. Du côté du collectif des avocats de ce prisonnier, le temps pris pour cette opération ne s'explique pas. Il dénonce plutôt un blocage dans l'exécution de cette ordonnance.
Merci Mimi Ngumba. Maître Zachary, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, vous êtes aussi avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Est-ce que les collectifs des avocats de ces détenus qui attendent cette grâce présidentielle ont raison de s'inquiéter ou de dénoncer le fait que ça tarde?
Oui madame, c'est quoi que c'est, lorsqu'on prend, l'on prend une pareille ordonnance, puisque nous sommes ceux qui sont en train de chercher la cohésion nationale, et c'est pour égayer la population, c'est pour retrouver vite cette cohésion-là, c'est pour jeter dans l'opinion une certaine joie, une certaine satisfaction. Mais lorsque ça traîne, ça peut traîner comme l'analyste l'a dit tout à l'heure, qu'il y a plusieurs événements qui sont rentrés en ligne. C'est vrai qu'il y a eu la guerre à l'Est avec tous ces soubassements. C'est vrai qu'il y a une forte pression aujourd'hui par la communauté internationale afin que le gouvernement puisse signer. C'est vrai, c'est vrai. Mais lorsque le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, dit le président a tout le temps de consulter. Non, mais sous d'autres cieux, madame. Aujourd'hui, vous êtes président de la République. À la minute, on connaît votre premier ministre. Et le lendemain, on a le gouvernement. Et là, ils sont nés de quelles femmes? Et là, ils sont de quel pays? Pour que celles-là les obéissent facilement et que chez nous, ça fasse toujours la règle d'attendre longtemps. Quand on donne, d'abord, l'ordonnance de mise en grâce, là. Vous voyez que ça ne concerne même pas les grandes personnes qui ont de l'envergure, qui sont des opinions, comme l'a dit le frère, qui sont opinions en République démocratique du Congo, qui on attend aujourd'hui de leur sortie des milliers, pour se dire effectivement, pour se croire dans l'action et pour se croire même dans l'effectivité et dans la puissance de cette ordonnance. Mais vous voyez que ce sont des gens qu'on a accordés en prison, c'est vrai, ce sont des Congolais comme nous, mais qui n'ont pas de renom, qui ne sont pas connus, qui leur liberté ne va pas faire tellement ou faire croire aux gens qu'effectivement...
Et ça ne va pas favoriser la cohésion?
Non, je ne dis pas que ça va cohéser. Ce sont des Congolais, ils ne sont pas moindres, ils ne sont pas négligeables. Mais ça ne fera pas de la même manière que si, par exemple, Diomine Dongala sortait, par exemple, Coutinho, par exemple, l'ex-député qui a été arrêté pour la nationalité.
Chaloupa,
c'est différent, madame. Nous sommes tous les mêmes, mais n'avons pas les mêmes qualités et n'avons pas les mêmes envergures. C'est ce que le gouvernement ne peut pas comprendre. Donc, ces gens-là ne sont même pas concernés. Même si cela sortait, ça sera dans l'anonymat et ils ne seront pas connus par les grands publics qui puissent faire l'engouement et qui puissent faire la joie de tout un peuple.
Et donc, pour vous, il fallait que ces leaders d'opinion, si je peux les qualifier ainsi, soient concernés. Il faut qu'ils soient concernés par cette mesure de grâce.
Ça ne serait même pas ainsi, madame. Il n'y a pas de sincérité. C'était juste de sopotrage. C'était juste pour satisfaire l'opinion. Il n'y a rien de tout cela. Il n'y a rien. Il n'était pas sincère. Est-ce que vous pensez, madame, que pour le faire, il a fallu que le président Kabila puisse prononcer des discours? Le jour même qu'il a ouvert les travaux, c'était le jour qu'il devait faire annoncer la mesure de grâce. Est-ce qu'il fallait attendre le retour, la fin des concertations pour venir faire encore un discours et aujourd'hui continuer à attendre l'exécution de l'ordonnance? Non, il aurait pu le faire. C'est son pouvoir discrétionnaire. Il n'y a pas une institution aussi prestigieuse comme la République, comme la présidence de la République, madame. Lorsque j'attends qu'il le consulte, non, il fait ceci, ça me fait mal. C'est comme si, au-dessus de la présidence de la République, il y avait une autre institution beaucoup plus grave, ou beaucoup plus grande, ou beaucoup plus prestigieuse, à laquelle était sous-entendu la présidence de la République. La présidence, c'est une institution prestigieuse. Elle est souveraine, d'ailleurs. Elle prend des décisions et elle les fait influer dans l'opinion, madame. Qu'on ne peut pas distraire tout un peuple, toute une opinion.
Mais il ne faudrait pas prendre aussi des décisions qui ne vont pas satisfaire la population.
Non, oh là là. Mais vous savez, il y a eu un principe dans ces pays, la Conférence nationale souveraine. Vous savez ce qu'il a levé comme option? Il a dit que vous devez avoir un gouvernement populaire pour des décisions impopulaires. Or, des décisions impopulaires ne peuvent pas satisfaire tout le monde. Ce sont des décisions dures, mais puisque vous êtes populaire, ça va passer dans l'opinion. Plus ça passe, c'est comme une infirmière qui soigne la plaie. Plus elle soigne la plaie, plus les malades pleurent. Et le lendemain, les malades guérissent. Les malades est en bonne santé, recouvrent sa joie et son sourire. C'est ce qui manque aujourd'hui. Nous avons un gouvernement qui ne soit pas tellement populaire qu'il puisse prendre des décisions populaires. La liberté, la grâce, la mesure de la grâce, est-ce que ça ferait même logiser des débats? Ça, c'est le pouvoir prestigieux du président Kabila qui devait prendre cette ordonnance et relaxer les détenus en prison. Ils seraient déjà chez eux en train d'écouter, parce qu'ils doivent même participer à ces gouvernements dont on parle, gouvernement de cohésion nationale. On devait voir Chaloupa participer à ces gouvernements. On devait voir ces gens-là participer, madame. Parce qu'ils ont les soucis d'avoir l'unité, la cohésion pour faire face à la guerre.
Merci, maître Zakari.
Mais ce que je voudrais signaler pour terminer, madame, qu'ils ont parlé d'un gouvernement de la cohésion nationale qui devra débuter la guerre à l'Est. Mais la guerre vient de se terminer avant que le gouvernement se forme. C'est utopique. Le gouvernement, la guerre vient de se terminer, ils ont fêté, ils ont marché, ils ont jubilé, avant même la formation de ce gouvernement, prétendu gouvernement qui devait mettre fin à la guerre à l'Est.
C'était une des missions. Il y a d'autres missions assignées à ce gouvernement de cohésion nationale, maître Zakari. Joseph Kongolo, un mot sur cette mesure des grâces.
Bien, je crois que maître vient de dire tout à l'heure que c'est parmi les stratégies du chef de l'État pour raccommoder cette cohésion, la cohésion nationale. Malheureusement, c'est une mesure qui n'est pas encore exécutée. Du moins, dans mes consultations auprès des juristes, il semble que l'ordonnance elle-même était vicieuse, en quelque sorte, du moment qu'elle n'a pas repris nommément, parce que nous sommes dans une matière juridique. Il semble que cette ordonnance devait reprendre nommément les concernés et, comme on venait de le dire tout à l'heure, toutes les mesures devaient être appliquées sur des personnes nommément citées par l'ordonnance. Ça, c'est le travail n'est pas du ministère qui devait être fait de cette manière. En ce moment-là, l'exécution serait facile. Mais aujourd'hui, que l'ordonnance est là et que il y a tous les risques possibles que d'autres noms, n'est-ce pas, qui ne sont pas concernés par l'ordonnance, puissent passer. Et je crois que, bon, ça peut être aussi un des éléments qui justifie le retard de la sortie de l'exécution de cette mesure de grâce. Mais je crois que Maître n'a pas non plus tort quand il dit que une mesure de grâce qui doit raccommoder la cohésion, raccommoder les fractures qui ont été faites dans la société et doit concerter aussi des grandes opinions. Je crois que c'est une vérité aussi, c'est aussi une vérité. Sans non plus minimiser les autres Congolais, comme elle l'a dit tout à l'heure, je crois qu'il y a des personnalités qui devaient aussi faire partie de cette mesure de grâce. Et en ce moment-là, je crois qu'on pouvait gagner quelque chose en termes de cohésion nationale. Et le retard, comme nous l'avions dit tout à l'heure, il y a autant beaucoup d'éléments qui ont intervenu dans l'entretemps qui vont faire que l'exécution de toutes ces mesures tarde un tout petit peu parce qu'au fait, il y a ce qui divise, n'est-ce pas, le Congolais à Kampala. C'est justement quelque chose qui a droit, qui a rapport avec la mesure de grâce, avec l'amnistie, l'institution et tout ça. Je crois franchement qu'il y a autant d'éléments qui ont intervenu dans l'entretemps qui font aujourd'hui que toutes ces mesures ne soient pas exécutées parce qu'au fait, on ne va pas faire une liste, n'est-ce pas, des gens du 1-23 qui seront repris ou qui ne vont pas, et les autres, ainsi de suite, et tout ça. Je crois que c'est le moment pour mettre tout cela ensemble et sortir un document unique. En ce moment-là, je crois que ça pourra peut-être avoir l'effet escompté par le président de la République lui-même, comme il avait déjà conçu.
Merci Joseph Kongolo. Ingénieur Robert Boulesso de Kindu Manima dit ceci, que faut-il dire encore pour que les Congolais comprennent, le pays est malade. Laissons l'équipe en place finir son mandat et endosser les responsabilités au lieu de chercher avec qui se partager les faiblesses. Voilà encore l'incapacité de finir avec ce qu'on a commencé. Kassamba de Bougne en province orientale, dans ce discours, l'essentiel qui a consisté à la fin de la guerre avec les M23 et l'amnistie pour les détenus qui les méritaient à être réalisée. Quant à la formation du gouvernement de cohésion nationale, il ne fait pas partie des soucis des Congolais à cause des politiciens jouisseurs. Honorable Molicho, la mesure des grâces, il fallait cibler ces politiciens emprisonnés pour qu'on sente vraiment que le gouvernement ou le chef de l'État cherche la cohésion nationale.
Oui, madame, je commencerai d'abord par dire
on a pris beaucoup de temps, il nous reste moins de 3 minutes.
Je ne vais pas m'engager dans un débat juridique, mais je crois que l'ordonnance portant mesure de grâce a défini les catégories et les critères pour la mesure de grâce. Bon, on ne devait pas nommément
désigner les gens. Mais dans cette catégorie, bizarrement, on ne retrouve aucun politicien en prison.
Oui, mais madame, une mesure de grâce comme l'amnistie ne doit pas être de prime d'impunité. La cohésion sans justice et n'est pas possible. Le genre dont on parle, bon, je ne connais pas le détail de leur dossier. S'ils sont là où ils sont, c'est parce que ils ont commis des infractions.
Alors, en conclusion, on n'a plus beaucoup de temps.
Bon, en conclusion, madame, moi je dirais tout simplement ceci, que le président de la République a annoncé une série de mesures, et le président de la République, avec méthode, est en train de réaliser ce qu'il a annoncé. Il a annoncé la fin de la guerre et les batailles sont gagnées et je crois que notre armée est en train de monter en puissance.
Merci. Merci, honorable Molicho. Maître Zakari, à moi, en guise de conclusion.
Oui, je ne concevrai pas une amnistie, madame, qui ne soit pas posée, qui ne soit pas assise sur une infraction. Il faut d'abord commettre l'infraction pour bénéficier de l'amnistie, puisque l'amnistie elle-même est définie comme le pardon général. C'est défini comme la loi de l'oubli. C'est une loi parlementaire. Il faut d'abord commettre l'infraction avant de bénéficier de l'amnistie. Qu'est-ce qu'on dit de l'autre côté? Donc, de quoi parle-t-on finalement ce soir? Madame, je termine en disant que tout simplement le peuple congolais n'est pas avec tout ce qui se passe. Il faudrait qu'on conjugue encore beaucoup d'efforts, qu'on reconnaisse. Merci. Sous d'autres cieux, madame, l'officier reconnaît ses fautes et il engage sa responsabilité.
Merci, Maître Zakari, Joseph Kongolo.
Je voudrais que le président de la République, au-delà des déclarations du gouvernement d'Union nationale, qu'on construise des politiques qui mettent la population ensemble
qui cassent les fractures qui ont divisé la population et qui mettent dans les processus de développement l'ensemble des jeunes éparpillés ci et là dans des groupes de groupuscules armés pour les mettre tous dans un processus de développement. En ce moment-là, on peut consolider la cohésion nationale.
Merci Joseph Kongolo, c'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.